Mimi, tu viens, ça reprend.
Quoi, qu'est-ce qui reprend?
L'émission de la JT du local.
Ah oui, on est déjà lundi. J'étais dans le flou ce matin, je me suis levée du mauvais pied sans vraiment savoir pourquoi. D'ailleurs, je les ai regardés tous les deux, un pied coupable, un innocent, si l'on en croit l'expression. Rien n'avait de sens. Ce raisonnement était ridicule et je me suis dit quelle audace de remettre la responsabilité de mon humeur sur une des parties de mon corps qui me tient debout. Pour passer à autre chose et quitter cette prise de tête sans fin, j'ai mis de la musique. Elle prend de la place et me balade un peu. Même assise, le café en main, ça m'emmène ailleurs, ça traverse parfois même les époques. Et finalement, ça finit par aller mieux. D'ailleurs, il y aura bien quelqu'un qui nous fera voyager dans le temps aujourd'hui. Dans cette émission, ce sera Luc Arbogast, chanteur révélé dans The Voice en 2013. Il sera en concert le 28 et 29 octobre à Olivet, à l'abbaye de Clermont. Il était au micro de Lucie qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Et bonjour chers auditeurs, bienvenue dans la JT du local. Dans cette émission, on ira également au lycée Douanier-Rousseau à Laval, où une semaine a été organisée sur l'égalité filles-garçons. On y a été et on nous a présenté le projet, on écoutera tout ça ensemble juste après. Mais avant tout, Lucie, tu nous proposes un point sur les actualités locales.
Et oui, alors je vais commencer par le plus sérieux. La Ligue des droits de l'homme, ou LDH pour faire court, a fait appel à une large mobilisation partout et aussi en Mayenne, pour, je cite, que les populations d'Israël et de Palestine puissent enfin construire une paix, leur épargnant la haine, la violence et la terreur. Elle prend position et condamne les crimes de guerre, quels qu'ils soient, où qu'ils aient été commis, et souhaite tout mettre en œuvre pour faire appliquer le droit humanitaire international. À ce propos, deux manifestations ont été interdites à Laval. Elles étaient prévues pour ce mardi midi et organisées par plusieurs syndicats pour appeler à la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais la préfète se justifie par la crainte d'un trouble à l'ordre public. Face à elle, le responsable de la force ouvrière 53 s'indigne. Deuxième sujet très suivi en ce moment, les fausses alertes attentats. Il y en a eu deux à Laval et Évron vendredi dernier, et la préfète de la Mayenne rappelle que les auteurs seront recherchés pour perturbation de l'ordre public et qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires et de peines allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Elle estime, je cite, que ça mobilise inutilement les forces de l'ordre dans un contexte vigipirate urgence attentat où elles doivent assurer la sécurité de tous. Voilà, bon, maintenant on peut passer à des choses plus légères, je te rassure Margot. Ça y est, c'est la saison des températures qui baissent, des rhumes, des cures de détox qui préparent l'hiver. Et cette semaine, ça tombe bien, c'est la semaine santé, bien-être et prévention à la maison de quartier d'Hilard à Laval jusqu'au 29 octobre. Un chouette programme avec des ateliers sur l'alimentation par exemple, le sommeil, des bilans de forme, des formations aux gestes qui sauvent et même des cours de natation pour les non-nageurs. Les plus grands pourront aussi découvrir une maison géante pour un retour garanti à l'âge de 2 ans.
Et en parlant santé, il y a une initiative sur la mobilité douce à l'école de Jean-Pierre. À l'école, pardon, Jean-Pierre Bourdin à Voutré.
Effectivement, jeudi dernier, les élèves se sont vus remettre par la municipalité leur licence de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. C'était dans le cadre du projet « Je me bouge à pied, vélo, roller et trottinette » pardon, qui a pour vocation de lutter contre la sédentarité et d'en profiter pour faire le lien avec les JO en 2024.
D'autres actus sport, tant qu'on y est ?
Avec plaisir, en fin de semaine, le 29 octobre, ce sera le départ de la transatlantique de Jacques Vabre. Plus de 200 marins vont concourir pour cette 16e édition, dont notre skipper mayennais Maxime Sorel à bord de l'IMOCA VNB Mombana Mayenne. Côté foot, le stade Lavallois va affronter Saint-Étienne ce soir à 20h45. Notre équipe, leader de L2, reste sur 9 matchs d'affilée remportés en 2023, mais aller chercher un record historique de 10 succès de rang à Le Basseur ne sera pas une mince affaire face à Saint-Étienne. Et puis, notre département n'est pas en reste sur le sujet du handisport. Pas plus tard qu'hier, par exemple, Vincent Houtin et Jean-Pierre Bertrand ont pu participer au Craon Natural. Tous les deux porteurs de handicap, ils ont parcouru 16 km sur un fauteuil roulant adapté avec des bénévoles accompagnants. Les fauteuils font des pointes à 15 km/h et peuvent se renverser si le pilote ne prend pas correctement un obstacle.
De vrais bolides. Et d'ailleurs, dans un autre thème, est-ce que l'Espace Mayenne n'aurait pas reçu un prix récemment ?
Tout à fait. Jeudi dernier, Espace Mayenne a remporté le trophée de la catégorie « Divertir » aux Eiffels de l'architecture 2023, qui récompense les œuvres architecturales construites tout ou partie grâce à de l'acier.
Eh bien, cocorico.
Et puisqu'on parle de divertissement, à Argentrée, ce samedi 21 octobre, se tenait la fête du jeu dans la salle de l'Escapade, organisée par le service jeunesse de la ville. Plus de 150 personnes ont répondu au rendez-vous. Et puis pour finir, un autre rendez-vous ce week-end, c'était avec le pressoir mobile Movie Press, ce dimanche 22 octobre, dans la cour des jardins des Renaudières, à Colombier-du-Plessis, près de Goron. De nombreux particuliers ont pu apporter leurs pommes et repartir avec du jus maison. Si vous l'avez manqué et que vous avez des kilos de pommes en trop, dont vous ne savez pas quoi faire, sachez qu'il fera étape vendredi, ce vendredi, à Mayenne, et mardi 7 novembre prochain, à Goron à nouveau.
Je le disais tout à l'heure, Luc Arbogast, chanteur qui a été découvert dans la deuxième saison de The Voice, sera en concert à l'abbaye de Clermont à Olivet le 28 et 29 octobre. Vous le connaissez sans doute et si son nom ne vous dit rien, toi Lucie, tu as pu échanger avec lui.
Tout à fait Margot, j'ai eu le plaisir de lui poser plein de questions. Je vous propose d'écouter notre entretien tout de suite. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Luc Arbogast. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chanteur, vous êtes connu pour votre voix contre-ténor, vous êtes aussi multi-instrumentiste. On a pu vous découvrir par exemple dans The Voice et on va pouvoir vous écouter à l'abbaye de Clermont à Olivet le 28 octobre à 20h et le dimanche 29 à 15h. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre tournée pour commencer ?
Oui, tout à fait. Alors, les gens se demandent un petit peu pourquoi je me déplace en fait dans des villages en fait aujourd'hui dans ma carrière. Indépendamment de la tournée que je propose sur Via Antica, donc qui est une tournée qui propose énormément de dates sur le thème du patrimoine, et j'ai voulu moi mettre ma musique en fait à disposition d'un public qui va pas forcément dans les zéniths, qui va pas forcément dans les stades, pour aller à la rencontre du public, mais surtout faire en sorte que le public découvre le patrimoine de sa propre région. Ça fait partie de la mission que je me suis fixée en tant que gardien du patrimoine, dirais-je. Donc là, sur cette tournée à Olivet, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir des chants de patrimoine, en fait, des chants de colportage, des chants qui ont fait la France, des chants qui ont fait le Moyen-Âge, qui ont fait l'époque victorienne, le travail des apprentis, des compagnons, tout ce qui touchait aussi aux légendes régionales. Enfin, voilà, c'est ça que je vais proposer.
D'accord, donc si je comprends bien, le patrimoine est vraiment au cœur de cette tournée. J'ai vu que certains vous présentent comme un troubadour parfois. Est-ce que vous vous définissez comme un troubadour des temps modernes peut-être ?
L'idée est intéressante. C'est vrai que je travaille vraiment comme le faisaient les troubadours à l'époque, c'est-à-dire d'aller de village en village, de château en château, de pays ou de région en région. Et puis... avec une éthique particulière, qui est celle effectivement d'aimer le patrimoine, de faire découvrir et de faire aimer le patrimoine. Mais quand j'entends patrimoine, je ne parle pas uniquement des vieilles pierres, je parle aussi des traditions, de l'art culinaire, des tenues régionales, des fêtes anciennes, tout ce qui nous amène en fait à redécouvrir notre pays, nos traditions, nos légendes, tout ça quoi. Le patrimoine, c'est quelque chose qui est aussi immatériel. Bien sûr, ça passe chez moi par le travail sur les monuments anciens d'abord.
C'est effectivement un cadre qui semble assez idéal pour redécouvrir un petit peu tout ce qui a fait notre histoire. On vous connaît aussi beaucoup pour votre goût pour le médiéval. Comment est-ce que vous avez découvert tout cet univers ?
Ah, la culture médiévale. Je sais pas, j'ai été touché étant enfant déjà par l'imagerie médiévale. Vous voyez les gravures, des livres sur la culture médiévale. On a été ensuite, de ma génération, à proche des 50 ans, on a été bercé un petit peu par Thierry Lafronde aussi, par Ivan Noé, ce genre de choses, ou par la littérature médiévale, par Le Seigneur des Anneaux, enfin, d'influence médiévale. Et puis, j'ai eu des profs d'histoire qui étaient magnifiques, quoi, qui avaient vraiment un amour de l'histoire et qui savaient la passer. Et puis on se tourne quand même sur 1000 ans d'histoire, donc il y a énormément de choses à voir, à dire, à découvrir, à faire découvrir.
C'est effectivement un univers qui est très riche. Dans les autres sujets que vous abordez à plusieurs reprises, c'est aussi le lien avec la nature. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ? Est-ce que, par exemple, les sujets comme l'écologie, ça peut vous toucher particulièrement ?
Complètement. Complètement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pose réellement à l'écologie et à la décroissance. C'est parce que pour moi, il y a vraiment une forme d'idéal, je dirais, dans l'époque médiévale, indépendamment du contexte culturel et politique, hein, la peste, l'inquisition, tout ça. Bon, ok. C'est vraiment la notion que l'air était bien plus propre à l'époque, que la France était recouverte à 80% de forêt, qu'il y a une notion de lenteur, je dirais, dans le déplacement. Vous voyez, on se déplace en chariot à chevaux. L'impact pollution était zéro, quoi. C'était vraiment bien avant le siècle de l'industrie. Donc c'est vrai que mon cœur appelle à ça.
Vous parlez d'idéal que vous trouvez dans l'époque médiévale et dans cette lenteur qui existait à ce moment-là. Peut-être aussi que votre projet de retrouver un petit peu un lien avec ce patrimoine, c'est aussi une manière de promouvoir tout ce qu'il y avait à cette époque-là et toute la richesse qu'il pouvait y avoir dans les réflexions.
Oui, ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain temps, je réalise que quand je chante, quand je donne un spectacle, j'y vais totalement, c'est-à-dire que c'est pas comme certains artistes que je connais aujourd'hui dans le milieu du show business, parce que j'ai créé des liens très forts, hein, avec des personnes de ce milieu-là, il y a la notion d'arriver, de prendre un cachet, de faire son spectacle et de se barrer, et en fait, moi, je trouve ça incroyable, puisque si on a la chance d'être entendu, si on a la chance d'être écouté, d'être reconnu, on a une responsabilité de partage, en fait, on devient responsable, en fait, de l'échange. Et dans les concerts que je donne, il y a une vraie volonté, je dirais, de transmettre au moins ces valeurs, quoi. Mais sans faire de prosélytisme, parce que ça serait contraire à ma philosophie. L'idée, c'est plutôt de... Ben, c'est un petit peu comme, vous savez, en pédagogie enfantine, on suggère plutôt que de dire « il faut faire ça », quoi. C'est plutôt que ça vienne de l'enfant. Mais c'est pareil, en fait, pour moi, qui suis parfois dans le public, ou pour mon public, l'idée, c'est d'être en ouverture d'esprit, quoi. Après, on ne tombe pas dans la mystique New Age, hein. On est vraiment dans le côté histoire, tradition, puis questionnement de comment on se situe par rapport à cette poésie, en fait, par rapport à cet état d'être, quoi.
Effectivement, quand on est artiste, je pense qu'on a la chance d'avoir une parole et de pouvoir un petit peu faire découvrir des choses et ouvrir l'esprit à son public. Dans les autres sujets que j'ai notés chez vous, il y a aussi la spiritualité. Par exemple, dans votre album Odysseus, qui est sorti en 2013 et qui est donc quadruple disque platine. Est-ce que la spiritualité, c'est aussi quelque chose qui peut être important pour vous? Est-ce que ça va aussi de pair avec les autres sujets qui peuvent vous toucher?
La spiritualité, c'est un domaine un petit peu particulier à aborder dans l'époque actuelle, puisque on est vite, je dirais, entonnoirisé vers des systèmes de pensée. Vous voyez, par exemple, moi, je suis un bon exemple de spiritualité hybride, c'est-à-dire que moi, je suis de baptême, je suis catholique, avec une approche très forte, en fait, d'une part de bouddhisme aussi. D'ailleurs, ça se marie très bien avec le catholicisme. Et puis aussi, je m'intéresse beaucoup à l'animisme qui vienne du Proche-Orient ou du Venezuela ou qu'importe. En fait, voilà. Je trouve que je pense qu'il y a autant de spiritualité que d'humains, à condition que les humains aient une spiritualité. Il y en a qui n'en ont pas et qui sont très contents de ne pas en avoir. Me concernant, j'ai besoin de cette spiritualité parce que c'est un moyen de trouver une raison d'être, en fait. La spiritualité, ça peut être tout bête. Du moment où on allume une bougie pour quelqu'un qui on pense et qui est décédé, on est déjà dans la spiritualité, quoi. Dans les spectacles, j'évite d'en parler, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt, je pense, qu'à me voir évoluer sur scène, à voir quand je montre et quand j'assume mes émotions, parce que des fois, c'est vachement, vachement prenant quand même. C'est vrai qu'on peut me voir régulièrement pleurer sur scène ou éclater de rire ou dire une bêtise. J'amène une notion d'être entier. En fait, le fait d'être entier, c'est déjà aussi une forme de spiritualité. Donc je peux faire référence à Bouddha, je peux faire référence au Christ, comme je peux faire référence à... Je peux être totalement ouvert, en fait. Indépendamment de la religion, il y a aussi la notion d'espace culturel. La religion, c'est culturel aussi.
Donc en fait, la spiritualité, c'est finalement un sujet qui est très très complet et qui va toucher beaucoup de choses. Et justement, vous êtes assez touche-à-tout. Dans votre vie, vous avez pratiqué le dessin, la poésie. Comme je le disais au tout début, vous êtes multi-instrumentiste. Est-ce que c'est important pour vous d'être multi-casquette comme ça?
Je dirais que le destin m'a amené à être comme ça. C'est vrai que quand je calcule bien, des fois, je sais pas si vous connaissez cet exercice, quand on peut douter un peu de soi, comme tout le monde, on fait une liste en fait de nos qualités. Et c'est vrai que je me rends compte que la vie m'a doté de certains je vais pas parler de talent parce que ce serait très prétentieux, je veux dire, mais c'est plutôt une approche de la vie qui est multicarte. Et c'est vrai que je peins, c'est vrai que j'écris des livres, j'écris mes chansons, je chante, je joue beaucoup d'instruments. Enfin voilà, tout ce qu'un être humain aurait envie de faire, j'essaie de le faire parce que la vie, elle est courte et que le temps est compté, quoi. Et j'ai envie de me passionner vraiment pour tout ce que j'aime. Ouais, je fais partie de ces enfants, quand j'étais petit, quand je montrais un dessin, on me disait « Ah, c'est beau !» et tout, même si c'était pas forcément vrai, mais je crois que j'ai été encouragé, en fait. Et le fait d'encourager nos enfants, c'est quelque chose de très fondamental. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au terme des concerts, je rencontre toujours des enfants, ou des ados, ou même des adultes, qui me recontactent plus tard en disant « Mais vous savez quoi ? J'ai découvert tel instrument, j'ai décidé que j'allais faire ça. » Ou ça m'a donné envie de me remettre à l'écriture du livre que j'avais écrit. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est ça. L'échange d'envie, l'échange de passion, être générateur d'envie. Voilà.
Et est-ce que du coup, vous essayez peut-être de toucher, ou est-ce que c'est important pour vous de toucher ces jeunes générations, de les inviter à continuer à rêver, ou peut-être inviter l'enfant en chacun de nous à continuer à entreprendre ?
C'est une question super intéressante et je te remercie de l'avoir posée. On sort un album en 2024 qui va s'intituler Hymnus Universalis, donc les hymnes universels, qui est en fait un disque sur lequel j'ai compulsé tous les hymnes que j'ai écrits pour des villes comme Orléans, Strasbourg, Carcassonne, La Rochelle, le Mont-Saint-Michel, Bordeaux. Et il y a effectivement un morceau donc, qui s'intitule donc Hymnus Universalis, qui est un appel à la jeunesse à conserver le patrimoine, à prendre conscience du patrimoine et de l'héritage de nos anciens. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions aujourd'hui dans les associations de maintien du patrimoine, c'est souvent des personnes un peu plus âgées, je dirais. Les jeunes ont une tendance à se tourner vers l'avenir, les anciens vers le passé. Et je pense que la bascule est possible.
Donc finalement, si je comprends bien, que ce soit pour votre tournée ou pour l'album à venir, votre démarche est d'impliquer aussi les jeunes générations dans toute la richesse de notre histoire. J'ai une dernière question et puis après, il va être temps pour nous de se quitter. J'ai également vu que vous avez été très actif sur scène cet été. On a pu, par exemple, vous voir au Motocultor pour la 14e édition du festival. Comment ça se passe, votre lien à la scène ?
Eh bien, c'est un exercice auquel je me plie avec énormément de plaisir. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça, parce que le Motocultor, c'est plutôt un esprit un peu métal, comme ça, un peu rock. Alors c'est intéressant, moi j'ai la chance de pouvoir... En fait, ma vie est un peu particulière, parce que je joue dans les églises, je joue pour le patrimoine, je joue dans les abbayes, dans les châteaux, et puis à côté de ça, je fais des concerts dans les scènes un peu métal. Mais je peux aussi très bien faire des scènes sur d'autres choses, voilà. C'est vraiment, j'ai de la chance de pouvoir être... de passer un peu partout. Voilà, c'est un style de musique auquel je m'adonne, qui est universel, justement. Donc c'est vrai que j'ai joué dans les rues, hein, disons-le, j'ai joué sur la place de la cathédrale de Strasbourg pendant 25 ans, et j'y retourne encore de temps en temps, d'ailleurs. J'ai cette chance de pouvoir vraiment m'exprimer à peu près partout, en fait. Et voilà, ça c'est... Je dirais que le fait d'avoir fait The Voice, ça m'a professionnalisé, quand même. Ça m'a appris à comprendre les termes techniques et tout, parce que j'étais complètement vierge de toutes ces informations-là. Et pour en revenir au concert de la ville de Clermont à Olivet, là, l'idée, c'est justement de proposer un concert qui soit possible pour les gens. Parce qu'il y a des personnes qui veulent me voir en concert, mais ils n'ont pas forcément envie d'aller dans un stade ou dans un gros festival. Alors ils vont se retrouver dans leur village, avec l'artiste qui se déplace pour eux. Ça, je trouve que ça, c'est formidable. C'est ce que j'attendrais des autres artistes, quoi, me concernant. Il y a quelques années, on m'a anobli d'une médaille qui s'appelle la médaille de la courtoisie française. Je suis aujourd'hui représentant de l'art de vivre à la française à l'étranger. Il faut savoir une chose que le public qui n'a pas encore été dit, c'est que le concert qu'on fait ensemble là à l'abbaye de Clermont, la partie qui me sera reversée, eh bien, sera reversée pour des associations et des œuvres caritatives. Il s'agit surtout en fait de mettre à l'abri les gens dans le besoin pour l'hiver. Donc là, je travaille avec des associations aussi alimentaires, dans le vestimentaire, dans l'aide aux personnes nécessiteuses. Simplement en tant qu'ancien nécessiteux, disons-le, je vous le dis franchement, voilà. J'ai pas une dette envers eux, mais j'ai un engagement envers ces assos. Voilà.
D'accord, bah écoutez, c'est plein de démarches très engagées. On a vraiment hâte de vous retrouver du coup à l'abbaye de Clermont, donc à Olivet, le 28 octobre à 20h et le dimanche 29 à 15h. Merci beaucoup, Luc Arbogast, d'avoir pris ce temps avec nous sur l'autre radio.
Très bonne journée à vous, merci.
Merci.
Merci Lucie. L'autre radio va d'ailleurs vous faire gagner une place pour le concert de Luc Arbogast. Restez bien connectés sur nos réseaux sociaux, ça devrait arriver très très vite. D'ailleurs, après cette belle interview, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau aujourd'hui, Lucie ?
Aujourd'hui, je vais remonter dans le temps à ma manière. Peut-être que vous connaissez Strange Fruit, un classique de blues de Billie Holiday. Eh bien, je vous propose d'écouter sa reprise par la Canadienne Dominique Fils-Aimé.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves, blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, so sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun. For the sun to rot. For the trees to draw. The trees to draw. Strange and bitter.
C'était à Laval, au lycée Douanier-Rousseau, qu'on a parlé égalité filles et garçons durant toute la semaine passée pour la seconde année consécutive. Les lycéens et le personnel ont porté ensemble ce projet avec pour objectif créer des échanges et visibiliser le sujet. On écoute Nathalie Roth, professeure mais également référente égalité filles-garçons du lycée, ainsi que Lali et Léa, deux lycéennes qui portent le projet en présentant entre autres des ouvrages dans le hall du lycée.
Je suis Nathalie Roth, j'enseigne ici les mathématiques et je m'occupe aussi de l'égalité filles-garçons, d'essayer de coordonner tout ça auprès des différents personnels et puis des élèves du lycée Douanier-Rousseau. Donc c'est la deuxième année où on a choisi de mettre en place, avant on faisait déjà des choses sur l'égalité, mais un petit peu chacun dans son coin. Donc désormais on a essayé d'organiser quelque chose aussi avec la vie scolaire et d'impliquer un peu plus les élèves, c'était aussi ça l'objectif. Pas juste comme des élèves passifs et qui écoutent et qui soient sensibilisés sans que vraiment ils puissent participer. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment de leur transmettre après la sensibilisation le fait qu'eux puissent ensuite aussi partager et donner la possibilité aux gens de discuter, engager la conversation, voilà, sur ce thème-là. Leur idée était beaucoup vraiment, ils veulent faire évoluer les choses, ils veulent que les choses bougent, ils veulent que... voilà, on n'est plus ces problématiques-là. Donc, ils sont partants pour faire quelque chose. Nous, on avait choisi un thème parce que c'est un peu trop vaste, l'égalité, il y a tellement de choses. Donc, l'année dernière, nous avions choisi de faire femmes et sciences. Comme je suis plutôt scientifique, c'était un point de départ pour la première année. Et donc, avec l'actualité au niveau des JO, on est parti sur femmes et sport pour cette année. Et voilà, l'idée, c'est chaque année de prendre un axe un petit peu différent, qui est l'occasion de parler d'égalité, filles-garçons, parce qu'on commence bien collège, lycée, avec l'orientation, on parle un petit peu de tout ça, c'est important, les choix qu'ils font à ces moments-là. Et puis, des stéréotypes, voilà, de la représentation des femmes dans la société, dans les médias, des rôles de chacun, chacune dans la société. Et puis ensuite, on s'oriente plus vers la thématique qui a été choisie pour l'année. On a proposé des petites choses qui peuvent se remettre en place chaque année et qui ne sont pas trop compliquées à préparer. Donc un quiz, par exemple. Alors comme des fois, c'est un petit peu long l'attente pendant le self, les élèves ont décidé cette année de le faire dans la queue du self pour que ça fasse une petite animation et que ça permette d'attendre avant d'aller manger dans des meilleures conditions. Voilà. Ensuite, sinon, ils se sont appropriés un petit peu le hall et les endroits où les élèves passent, où les profs passent. Et puis, selon les jours, selon les moments, il y a plus ou moins de monde. Une chose nouvelle qu'on a fait cette année, on a fait un nuage de mots. Donc c'était très intéressant. On est venu avec plein de presse. Et l'idée, c'était de découper des mots, des groupes de mots, et de les coller sur une affiche autour de notre thème sur les femmes et le sport. Et donc là, les élèves étaient très contentes parce qu'ils ont vu arriver des élèves, des professeurs, des élèves qui n'avaient pas cours pendant une heure, qui sont restés à découper, à feuilleter la presse, à se dire « Ah, mais comment ça se fait? On trouve ci dedans. Oh là là, ça c'est sexiste. Et pourquoi il y a ça ?» Et voilà, parce qu'évidemment, il y avait de la presse féminine, mais pas que. Et d'autant qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de feuilleter la presse. Donc là, il y en a qui le feuilletaient aussi en découvrant vraiment. Ils avaient oublié presque l'exercice finalement qui était avec et ils tournaient. Des fois, ils prenaient une petite photo de ce qui leur tombait sous les yeux parce que ça pouvait les interpeller. Ou alors, ils se mettaient à discuter avec les voisins en disant « Ah, moi, j'ai trouvé ça dans ce que je suis en train de lire. » Voilà. Et puis ensuite, de faire leur petit découpage, leur collage. Et c'est vrai qu'on arrive à quelque chose de sympa. Donc, on en est à se dire il faut absolument qu'on trouve un endroit où ensuite exposer ça parce que finalement, ils ont réussi à faire quelque chose, je pense, qui peut être durable et intéressant. Et puis ensuite, on va voir comment, de manière ponctuelle au cours de l'année, on peut réactiver un petit peu cette thématique pour qu'elle soit là tout au long de l'année. Plus on va en parler, plus on va banaliser, plus on va confronter les idées de chacun, les questions de chacun, de chacune, parce qu'on ne se pose pas les mêmes questions. Il y en a pour qui c'est pas un problème, d'autres qui se demandent « c'est bizarre ». Voilà. Donc on échange. Et on se dit qu'à force d'échanger, d'écouter ce que pensent les uns, ce que pensent les autres, dans un cadre bienveillant, on réussit aussi à faire avancer les opinions, à faire évoluer un petit peu la façon dont les gens pensent tout ça.
Bonjour, je suis Lali en première dans le lycée Douanier-Rousseau à Laval. Léa est première D aussi au lycée Douanier-Rousseau. On a des réunions de groupe, entre guillemets, et on se met tous d'accord pour avoir le même axe, donc là, les femmes et le sport. Et via ce même axe, on va développer plusieurs petits ateliers. Donc nous, en l'occurrence, c'est les livres, mais il y en a plusieurs. Il y a quiz, un mur des oubliés qui présente des femmes sportives, un photomaton aussi qui inclut les autres élèves qui ne font pas partie du groupe. Et on a une BD qui est assez facile à lire de Laurent Lessoux, donc qui parle de Alice Mila. C'est une femme très importante parce que c'est la première qui va vraiment inclure les femmes dans le sport et c'est elle qui va initier les femmes aux JO. Donc c'est très, très intéressant et c'est facile à lire étant donné que c'est une BD. Et c'est pas seulement une BD, il y a aussi des petits passages qui retracent la vraie histoire avec des vraies informations, des dates et des vrais noms. Donc ça permet vraiment de compléter la BD. Genre on n'est pas que sur une histoire, on est vraiment aussi sur la vraie histoire ancrée.
Différentes biographies aussi, comme par exemple « Femmes qui courent », une biographie de Violette Maurice écrite par Gérard de Cortanze. Violette Maurice, c'était une femme féministe, lesbienne assumée, qui était mal vue par la société française à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, là, c'est un petit roman qui retrace un peu l'histoire de sa vie. Et vu que c'est un roman et que beaucoup de gens n'aiment pas forcément ça, il y a aussi une autre version en deux tomes de bande dessinée sur la même femme, écrite par Ravi Ray, Bertrand Gallic, Chris Marie-Jo Bonnet. Le roman parle plus de son côté féministe et de son engagement. La BD, elle, parle plus d'un point de vue par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une sportive, du coup, de haut niveau en multisport.
Il y a toujours des choses à mener, parce qu'on est, on n'est pas encore en égalité parfaite. Et en fait, voir des portraits de femmes qui ont réussi à vraiment changer les choses
bah, ça permet de nous dire que enfin, nous aussi, on peut y participer, y contribuer et améliorer le destin des femmes de demain. Il y a certaines femmes en fait, qui ont totalement été rayées de l'histoire alors qu'elles sont très très importantes. Et on a plus retenu leurs maris ou des personnes qui ont volé leurs recherches, par exemple les femmes scientifiques l'année dernière. Et bah, en fait, on ne se rend pas compte à quel point les femmes elles sont minimisées dans la société et qu'on s'attache plus à leurs travaux sans s'occuper de leurs personnes.
La JT du local est terminée pour aujourd'hui, mais on reste sur l'autre radio. Lucie, est-ce que tu peux nous dire ce qui arrive à 19h ?
Oui Margot, à 19h, on retrouve l'émission Solénoïde. On va commencer la semaine avec un voyage sonore de musique un peu planante à leur côté, et ça fait du bien.
Et la soirée se poursuit à 20h avec une discothèque.
Exactement, et aujourd'hui, c'est Rose qui va nous faire découvrir sa discothèque.
Merci Lucie, tu reviens jeudi dans l'AJT du local. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve quand même demain à 12h15. Prenez soin de vous en ce début de semaine. Et comme je dis toujours, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, hier, c'est fini.